Bon, bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais présenter ce dernier roman de Jean-Philippe Toussaint, qui est un auteur que j'aime beaucoup, que je suis depuis pratiquement ses premiers romans, et que j'ai même mis au programme de certains de mes cours. Peut-être tout d'abord quelques précisions biographiques. On sait très peu de choses sur la vie de Jean-Philippe Toussaint. En fait, il est d'une discrétion absolue, et puis vous verrez que finalement, ce n'est pas très essentiel. Mais enfin, quand même, il est né à Bruxelles en 1957. Ensuite, il vient faire très vite, finalement, vivre à Paris avec sa famille. Il va faire ses études à Paris. Ses études vont le mener jusqu'à un DEA d'histoire, je crois, et puis aussi des études de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris. Et ensuite, on le retrouve, alors là je ne sais pas si c'est bien garanti comme information, on le retrouve comme professeur de français à Médéa, en Algérie. Parfait. C'est parfait, formidable. Où il fait d'ailleurs la connaissance d'un autre romancier qui est maintenant dans la même maison d'édition que lui, Patrick Deville, qui était également en Algérie à ce moment-là. Donc là, nous sommes entre 1982 et 1984. Il s'est marié en 1983. Et c'est également en Algérie, semble-t-il, qu'il a commencé à écrire avec l'esprit, un modèle qui, je crois, est Beckett à l'époque, entre autres, mais surtout Beckett. Et alors, il écrit un roman qu'il envoie à divers éditeurs et qui va tourner dans diverses maisons d'édition, dont le titre est La salle de bain. Son roman, finalement... Je crois qu'il avait même demandé à Beckett de l'aider, bon, de publier ce roman. Et pour finir, alors qu'il désespérait un peu de le publier, il a eu l'idée de l'envoyer aux éditions de Minuit. Et Jérôme Lindon a tout de suite reconnu que c'était un auteur pour lui, qui avait là un intérêt pour l'écriture, pour le style, pour la construction du roman qui était un peu dans l'esprit de ce qu'il avait fait depuis le nouveau roman et de des priorités qu'il donnait à sa maison d'édition. C'est dans cette maison d'édition qu'il est resté, et comme on vous l'a dit, il a publié 9 romans plus d'autres petits textes. Il a publié en 1986 Monsieur. Il a obtenu en 2005 le prix Médicis pour Fuir, et le voici maintenant avec cette troisième partie d'une trilogie, puisqu'il y a eu 2 romans qui ont précédé, qui mettaient déjà en scène le personnage de Marie, et il y avait Faire l'amour et Fuir. On pourrait d'ailleurs faire une petite remarque sur l'évolution des titres chez... Parce que maintenant, 9 romans, on peut mesurer une évolution. Ça commence par des titres qui sont des substantifs comme la salle de bain, la télévision, l'appareil photo. Et puis ensuite, on a des verbes. On ne sait pas trop si ce sont des infinitifs ou des impératifs. Faire l'amour, fuir. Et maintenant, une formule qui fait apparaître dans le titre même Marie, donc, qui était un personnage jusqu'à présent enfoui dans le récit, la vérité sur Marie. Bon, on va l'interroger évidemment sur ce titre. Je crois qu'il faut tout de suite peut-être dissiper une mauvaise interprétation qui serait possible. Ce n'est pas une autofiction, rassurez-moi.
Il y a quand même, je vais vous inquiéter un peu, il y a quand même quelques éléments quasi biographiques, mais ils sont mélangés complètement avec des éléments fantasmés, inventés. Mais il est évident que, alors c'est pas une autofiction au sens que c'est pas, je ne reprends pas des purement et simplement ce que j'ai vécu, mais il est évident que tout ce que je vis me nourrit et m'inspire. Et que je pense que c'est indispensable, finalement, d'apporter des choses personnelles. Et il y a cette très belle phrase de Barthes qui dit qu'il ne faut pas donner le privé, mais l'intime. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que j'essaye de donner l'intime, d'aller assez loin dans des choses qui me concernent, mais que sur le privé, no comment.
Et c'est vrai qu'on reconnaît certains éléments que je sais être des prédilections qui sont les vôtres pour le Japon, par exemple. En revanche, je ne savais pas que vous aviez un intérêt pour les courses hippiques.
Moi non plus, je ne le savais pas. Je l'ai découvert, mais bon, c'est vrai que l'écriture d'un roman permet aussi de découvrir certaines passions que j'ignorais. En fait, il y a toujours eu une passion pour le jeu, une passion pour le sport, qui est présente dès la salle de bain. Le narrateur regarde des matchs de football à la télévision, il joue aux fléchettes, et si on regarde, il y a toujours des scènes pour, par exemple, d'enfuir. Il y a une grande scène au bowling, il y a une description d'une partie de bowling, et je pense que ce thème de l'hippisme fait partie de ce goût que j'ai pour le sport. Et donc, je dirais même, que j'ai hésité entre deux domaines un peu voisins, puisqu'il y avait un cheval qui était important dans le livre. C'était soit les courses de chevaux, soit le saut d'obstacle. Et donc c'est vrai que j'ai hésité, je me suis dit, le cheval en fait, Zahir, qui est dans le Boeing 747, aurait très bien pu être un cheval d'obstacle, et j'aurais à ce moment-là décrit une réunion, j'ai assisté aussi à des réunions d'équitation, ouais, saut d'obstacles, ouais, et ça aurait pu aussi être une matière. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'intérêt, de fascination pour tout ce qui est jeu, sport, et donc par exemple les champs de course. C'est un endroit j'y allais. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose. Or, je n'avais jamais eu de passion particulière pour les chevaux, donc je me suis beaucoup renseigné pour pouvoir écrire ce livre. Mais par exemple, la fascination pour les courses, l'univers des courses, je l'ai toujours eu, lié à ce goût pour le sport et ou pour le jeu ou pour tout ce qui est un peu ludique.
Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore lu le roman, il y en a peut-être parmi vous, il faut savoir effectivement qu'il y a un épisode central qui tient peut-être une soixantaine de pages au cœur du roman, hein, au milieu du roman, qui est consacré à un cheval de course qui est allé avec son propriétaire donc au Japon. Et auquel il arrive un certain nombre, on ne va pas révéler le détail, il arrive un certain nombre de mésaventures. Mais je voudrais peut-être partir par des choses plus périphériques. Dans ces trois derniers romans, donc, qui constituent une trilogie, vous prenez la peine de préciser dès l'entrée les saisons. Alors, faire l'amour, c'est en hiver, fuir, c'est en été, et la vérité sur Marie, c'est le printemps-été. Et alors ensuite, on s'aperçoit qu'effectivement le programme a l'air d'être assez bien respecté, et vous avez un intérêt très très particulier pour les aspects météorologiques. Pour il y a une description, plusieurs descriptions d'orages qui sont extrêmement belles, extrêmement fouillées. Il y a aussi vers la fin du roman, lorsqu'on est à l'île d'Elbe, on était déjà allé dans le roman précédent. Il y a la description d'un incendie de forêt, un incendie de garrigue, je dirais, qui est impressionnant. Alors, est-ce que vous accepteriez de parler un petit peu de cet intérêt que vous avez pour, justement, pour les saisons, pour les aspects climatiques, pour les atmosphères que ça crée aussi?
Oui, c'est vrai que c'est en fait le désir d'aller à l'essentiel. Et c'est vrai que il y a trois choses, je dirais, qui témoignent de ce désir d'aller à l'essentiel: les saisons, mais aussi les éléments. Enfin, il y a les quatre éléments sont très présents: la terre, l'air, l'eau et le feu. Et aussi, encore plus présent dans les trois livres, et vraiment au centre, la question de Eros et Thanatos, le sexe et la mort. Et donc, on est là vraiment, finalement, dans les choses les plus essentielles: le sexe, la mort, les saisons, les éléments. Alors après, j'essaye de faire une narration avec des éléments romanesques qui sont plus anecdotiques et concrets et quotidiens. Mais finalement, une des choses qui m'intéresse, c'est tous ces aspects sous-jacents et par exemple des saisons, mais c'est pas traité, je veux dire, il n'y a pas de dissertation sur les saisons ou sur les éléments, c'est simplement sous-jacent, et ça témoigne, je crois, de cette volonté d'aller à l'essentiel. Et puis, je remarque maintenant mieux l'influence qu'a eu l'Asie sur moi, et c'est vrai que cette attention à ce type d'éléments naturels est très présent dans l'art asiatique, dans la peinture ou la littérature japonaise ou chinoise. Il y a cette attention à la saison, à la nature, au temps, et qui sont mêlés à des sujets modestes ou mineurs. Mais finalement, le mélanger des choses aussi universelles et fondamentales à des choses mineures et modestes crée un mélange très, très porteur.
D'accord. Alors, quand on commence la lecture, on se rend compte tout de suite de quelque chose qui peut apparaître une sorte d'énorme invraisemblance romanesque. On a un narrateur qui raconte à la première personne, donc qui est également un personnage, et au début du roman, il vient de faire l'amour avec une Marie, et il découvre qu'au même moment, son ex-compagne, Marie, qui s'appelle également Marie, fait l'amour, au même moment. Donc c'est le point de départ, une situation qui offre beaucoup de possibilités romanesques, dont certaines d'ailleurs ne seront pas exploitées, parce que la première Marie va disparaître. On pourrait vous demander si c'est la matière du prochain roman. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce narrateur à la première personne, qui normalement devrait donc avoir une perspective romanesque limitée à ce qu'il connaît, à ce qu'il voit, pénètre comme un narrateur omniscient, comme un narrateur à la troisième personne, dans l'intériorité de Marie, et peut raconter des scènes auxquelles il n'a jamais eu accès, dont il n'a pas été témoin, et dont il n'est pas probable qu'elle lui ait été racontée. Alors il y a là quelque chose qui est un exercice un peu particulier, et j'aimerais que vous expliquiez un peu ce que vous voulez faire avec ça.
Oui, alors une des cohérences du livre, telle que moi je la conçois, c'est que le point de départ, c'est le narrateur qui va rejoindre Marie à l'île d'Elbe, à la fin de l'été. Et dans le bateau, entre Piombino et l'île d'Elbe, il somnole et il se souvient d'une nuit en particulier, en fait de deux nuits, mais commençons par la première. Il se souvient de la nuit où Marie se trouvait avec cet autre homme. Et donc il a un certain nombre de sources différentes pour pouvoir reconstituer cette nuit. Et les sources, c'est ce que Marie lui a raconté, c'est ce que lui-même a su, parce qu'il a été finalement présent à certains moments de cette nuit, puisque Marie et l'homme se sont trouvés ensemble. Mais à un moment, l'homme a eu un malaise et Marie a fait appel au narrateur. Donc le narrateur a également été témoin de visu de certains éléments. Et puis il y a ajouté à ça encore des choses que le narrateur simplement invente, fantasme, et se trouve finalement dans la position de l'écrivain. Il est là dans le bateau à reconstituer cette nuit. On peut dire qu'il a les yeux fermés et qu'il y a une sorte de monologue intérieur visuel, une sorte de rêverie qui se déroule devant lui, mais qui est nourrie de choses qu'il connaît. Il y a par exemple des recherches qu'il a faites sur le narrateur a fait des recherches sur Internet pour essayer de savoir qui était ce type qui se trouvait avec Marie. Donc il y a des éléments concrets qui s'ajoutent à des choses qui simplement il va imaginer. Et puis il y a des choses qu'il ne connaît pas de première main, mais qu'il peut imaginer de très près, comme par exemple tout simplement le goût des baisers de Marie et de cet autre homme. Alors comment peut-il imaginer que ces baisers ont un goût de grappe? Simplement parce que quand il va arriver lui dans la chambre, il va percevoir une bouteille de grappe sur le rebord de la cheminée, et il va donc en déduire que Marie et l'homme ont bu de la grappe. Et lui-même a déjà bu de la grappe avec Marie, et donc connaît le goût des baisers avec la grappe. Et donc on a une sorte de superposition des deux choses, et le livre, à maintes reprises, livre en fait une version et en fait en même temps la genèse. C'est-à-dire qu'on peut comprendre comment le narrateur, bien qu'il ne soit pas présent, peut imaginer tel ou tel aspect, parce qu'à un autre moment, on comprend par certains détails. Il y a donc comme des couches superposées.
Donc ça permet un peu peut-être de revoir le titre et d'en dégager un petit peu le sens. Le narrateur, effectivement, à partir d'un certain nombre d'informations, imagine et parfois fabule complètement sur le personnage. Par exemple, donc, il découvre, parce que Marie, son ex-compagne, l'a fait venir d'urgence, il découvre qu'elle était avec un compagnon qui a eu un malaise, qui a eu un infarctus, en quelque sorte, et il fabule sur ce personnage en lui prêtant des activités qui sont un peu louches, et il est question d'un revolver, enfin, en tous les cas, d'une forme rigide qu'il a contre... Donc, il y a...
C'est un autre exemple, oui, c'est ça. Si vous permettez, c'est un autre exemple. Marie dit qu'elle sent dans la poche de cet homme quelque chose de rigide, et est-ce que c'était possible que ce soit un revolver, se dit-elle, sous-entendu, se dit-elle. Et on se dit, mais comment a-t-elle pu imaginer, et surtout, comment le narrateur peut-il dire ça? Et en fait, on apprend par la suite que Marie lui a confié qu'il était victime d'un chantage et qu'à la fin de sa vie, elle lui aurait dit qu'il portait une arme. Et donc, l'explication, il y a l'explication aussi de pourquoi le narrateur peut imaginer que Marie pense que...
D'accord. Mais il le fait pas seulement parce qu'il a cette information, mais aussi parce qu'il veut un peu noircir l'image de son rival.
Certes. Alors là, on entre dans un autre domaine qui est la mauvaise foi pure qu'a le narrateur pour parler de ce rival. D'abord, ce rival s'appelle Jean-Baptiste. Il ne cesse de l'appeler Jean-Christophe, ce qui est un peu vexatoire pour ce pauvre homme. Et ensuite, il le charge. En effet, de ce point de vue-là, il lui prête des choses assez louches et il ne se prive pas d'insister sur le caractère assez désastreux de la nuit d'amour entre Marie et cet autre homme.
D'accord. Donc, le personnage du narrateur nous est présenté dans son activité de fabulation, d'invention, d'exercice de son imaginaire. On le voit à diverses reprises. Mais sur le personnage de Marie, en revanche, il prétend avoir la vérité. Et la seule vraie vérité.
Oui, c'est une sorte... le narrateur a là une sorte de fantasme qui est de se dire qu'il connaît Marie mieux que Marie elle-même. Et là, on rejoint finalement une sorte de fantasme d'écrivain. L'écrivain qui peut espérer finalement percer à jour le lecteur. C'est-à-dire où on pourrait le voir à l'inverse. Moi, il m'arrive par exemple en lisant Proust de me dire, mais comment sait-il cette chose-là que moi seul sais et qui m'appartient? Enfin, donc, comment se fait-il que Proust finalement me connaît moi mieux que moi-même? Et donc, à l'inverse, c'est une sorte de fantasme d'écrivain qui serait de dire, je vous connais mieux que vous-même, ou en tout cas, je l'exprime mieux. Enfin, avec les mots, quand vous lisez ça, vous avez l'impression de reconnaître quelque chose qui vous appartient en propre et qui a été exprimé par l'écrivain. Et donc finalement, la façon dont le narrateur sait la vérité sur Marie rejoint cette espèce de fantasme de connaître autrui mieux qu'autrui ne se connaîtrait.
Peut-être que pour illustrer cet aspect, vous pourriez lire, j'avais pensé à ce passage ici.
Oui. Je vais peut-être me lever pour dire.
Comme vous voulez.
Je me demande même si je vais dire un peu plus, oui. Parce que ça explique toute cette genèse.
D'accord.
Voilà, je vais lire à partir de là. Oui, je vais lire un passage un peu plus. Bon, je vais oublier. Donc le passage que je vais lire, c'est le narrateur se trouve dans le bateau quand il va rejoindre Marie à l'île d'Elbe. C'était la première fois que je revenais à l'île d'Elbe depuis l'été dernier. Je revenais un an jour pour jour après la mort du père de Marie. J'avais voyagé dans le même bateau de la Torre Aymar que l'année dernière, quand j'étais revenu de Chine pour assister aux obsèques de son père. Dès le départ du navire, j'avais été me réfugier dans un salon couvert de l'entrepont inférieur, et j'avais rêvassé dans l'ombre lourde et chaude d'un robuste siège aux accoudoirs métalliques. J'avais fini par m'assoupir, je somnolais dans la pénombre, bercé par les ronronnements du moteur, quand les événements de la nuit de la mort de Jean-Christophe Degé s'étaient mis à affleurer à ma conscience, sans que je cherche particulièrement à les reconstituer par un effort délibéré de la mémoire. Non, j'en revivais simplement des bribes dans mon demi-sommeil, laissant émerger quelques conjectures dans mon esprit, hypothèses et images, en faisant appel à des zones différentes de mon cerveau, selon que j'avais recours au raisonnement pour élaborer des hypothèses, ou que j'en appelais au rêve pour invoquer des images. À quelques faits avérés et vérifiables advenus cette nuit-là, il m'arrivait d'ajouter de pures fantaisies que j'intégrais librement à ma rêverie, combinant dans mon demi-sommeil des faits imaginaires à des lieux véritables, me déplaçant mentalement dans l'appartement de la rue de la Vrillière, dans lequel j'avais vécu plus de 5 ans avec Marie, entrant et sortant des pièces, ouvrant la fenêtre de la chambre et découvrant les murs d'enceinte de la Banque de France, baignant dans une lumière jaune de réverbères parisiens, alors que je me trouvais pour l'heure calé dans le fauteuil d'un navire silencieux qui croisait sur une mer d'huile entre la côte italienne et les rivages de l'île d'Elbe. Je savais qu'il y avait sans doute une réalité objective des faits, ce qui s'est réellement passé cette nuit-là dans l'appartement de la rue de la Vrillière, mais que cette réalité me resterait toujours étrangère. Je pourrais seulement tourner autour, l'aborder sous différents angles, la contourner et revenir à l'assaut, mais je buterais toujours dessus, comme si ce qui s'était réellement passé cette nuit-là m'était par essence inatteignable, hors de portée de mon imagination et irréductible au langage. J'aurais beau reconstruire cette nuit en images mentales qui auraient la précision du rêve, j'aurais beau l'ensevelir de mots qui auraient une puissance d'évocation diabolique, je savais que je n'atteindrais jamais ce qui avait été pendant quelques instants la vie même. Mais il m'a paru alors que je pourrais peut-être atteindre une vérité nouvelle qui s'inspirerait de ce qui avait été la vie et la transcendrait, sans se soucier de vraisemblance ou de véracité, et ne viserait qu'à la quintessence du réel, sa moelle sensible, vivante et sensuelle, une vérité proche de l'invention ou jumelle du mensonge, la vérité idéale.
Alors là, on voit que vous retrouvez des problèmes que vous avez déjà abordés, enfin qui constituaient la toile de fond de précédents romans. Je pense en particulier à l'appareil photo. C'est le problème un peu de l'être au monde, le problème quasiment philosophique de l'accès à la réalité ontologique, en quelque sorte, pour prendre très souvent, finalement, dans vos romans, sans que ce soit évidemment... sans que votre style soit abstrait, en aucune façon, mais il y a quand même des références ponctuelles, parfois à travers un mot, à la philosophie.
Oui, encore que dans ce passage-là, on est vraiment dans une problématique liée au roman, et il y a une sorte de constat d'échec qui est tenu que la littérature ou le roman serait... impuissante à restituer ce que fut la vie même. Le narrateur sait que, quoi qu'il arrive, il n'arrivera pas à, dans son monologue visuel, à reconstituer ce qui, à un moment, a été la vie même. Il y aurait cette espèce de graal à atteindre pour le narrateur, mais aussi pour le romancier, qui serait de reconstituer, restituer la vie même. Il y a donc un constat d'échec. Mais passer ce constat d'échec sur les ruines peut se construire autre chose et qui est finalement de s'inspirer de ce qui a été la vie et de la transcender pour atteindre une vérité nouvelle. Et cette vérité nouvelle n'est pas la vérité historique, qui finalement n'est pas atteignable, mais devient la vérité romanesque ou la vérité littéraire et qui finalement transcende la vérité historique et finalement s'affirme comme un triomphe. Donc il y a un constat d'échec qui aboutit finalement au triomphe d'une vérité artistique.
Alors cette vérité, c'est entre autres la vérité de Marie, la vérité sur Marie plutôt. Pour la première fois, je crois, dans un de vos romans, le personnage féminin prend une envergure particulière au point de repousser un petit peu le narrateur sur le côté. Et on a un vrai portrait, une vraie histoire de femme, une femme qui a personnalité, qui a un talent. Elle est artiste, elle est allée au Japon pour faire une exposition de ses œuvres. Elle a un tempérament, elle a aussi des travers qui sont parfois un peu amusants, pour ne pas dire un peu, enfin qui sont féminins, comme par exemple elle est incapable de fermer quoi que ce soit, les portes, les sacs, les armoires, etc. Tout reste toujours tout ouvert. Elle est constamment en train de rechercher quelque chose dans son sac. Lorsqu'on lui demande son passeport, il faut ouvrir les 27 sacs qu'elle transporte avec elle pour retrouver finalement le passeport à côté d'elle dans la mallette où elle a également son portefeuille. Enfin, on a un personnage de femme.
Oui, c'est vrai que ça, c'est dès Faire l'amour, en fait. Dans les trois derniers livres, il apparaît un personnage de femme qui a une ampleur qu'aucun personnage de femme avait dans les précédents romans. Dans les précédents romans, le narrateur avait généralement une compagne, que ce soit Edmondson ou Pascal, etc., mais qui était toujours, finalement, dans son ombre, était toujours un personnage secondaire par rapport au narrateur. Or, au moment de faire l'amour, le premier des trois livres où Marie apparaît, j'ai pensé que ça m'intéressait de faire un personnage féminin plus consistant. C'était assez délibéré. Et une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai inversé finalement le rapport social. C'est-à-dire que par rapport à ce que je connais, moi, généralement, quand je vais au Japon, c'est moi qui fais les interviews, c'est moi l'artiste. Socialement, je suis reconnu. Or là, j'ai prêté ce que je connaissais, de donner des interviews ou d'aller, etc., à Marie. Et donc, finalement, l'artiste dans le couple, c'est Marie, et le narrateur, lui, est simplement son accompagnateur. Et donc, j'ai inversé socialement, et ça donne, effectivement, ça rééquilibre ce couple, puisque le narrateur, lui, il a quand même la parole, puisque c'est lui qui raconte, mais il n'a pas le statut social fort. Et le statut social fort, c'est Marie qui l'a, c'est Marie l'artiste, c'est Marie la créatrice, c'est Marie qui donne les interviews. Et donc, du coup, le couple est rééquilibré, et ça fait de Marie un personnage aussi important que le narrateur. Et je pense que dans Faire l'amour et fuir, Marie est quasiment au même niveau que le narrateur. Et là, j'essaie de faire un pas de plus, où finalement, le narrateur disparaît pendant presque d'un tiers du livre, au profit de Marie, puisque simplement le narrateur est toujours présent dans l'invocation, que le narrateur imagine ce que fait Marie, mais finalement il disparaît. Il n'y a plus que Marie en scène. Et ça m'intéressait donc d'aller le plus loin possible dans finalement ce qui est la troisième personne en littérature. C'est-à-dire que, en gros, en 10 ans, je suis en train de passer de la première personne à la troisième personne. Et simplement, au lieu de le faire naturellement, comme la plupart des écrivains qui écrivent sans se poser de questions à la troisième personne, ça n'a pas l'air de leur poser aucun problème, moi, je me pose de façon extrêmement scrupuleuse le problème: est-ce que c'est possible d'écrire à la troisième personne? J'ai toujours écrit naturellement à la première personne, sans trop me poser de questions. C'était venu assez naturellement, instinctivement. Le narrateur écrivait et je voyais bien la cohérence que ça pouvait avoir. D'écrire à la troisième personne me paraissait quasiment incohérent, et presque en me disant, mais comment je sais ça, ou comment. Et donc finalement, je fais une espèce d'effort démesuré pour dire, ou pour m'interroger, est-ce que c'est possible d'écrire un roman à la troisième personne. Et donc il y a comme ça une tension permanente dans le livre entre la première personne et la troisième personne.
Alors évidemment, avec un personnage féminin qui a tellement de relief, il y a aussi de l'érotisme dans le roman. Et alors là, on retrouve des continuités, finalement, quand même, d'une certaine façon, dans votre approche de l'acte sexuel, de l'amour. Je pense qu'il y a une attention particulière à tout ce qui est sensualité, plus que véritablement érotisme, les surfaces, les contacts, les caresses, etc. Mais en même temps aussi, un certain désabusement par rapport au désir et à la violence de l'acte sexuel. Il y a des scènes d'amour somnambulique qu'on retrouve dans ce roman, qu'on avait déjà dans L'appareil photo en particulier. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez commenter cet aspect de votre approche de,
Alors, sur ce qui est de la première nuit d'amour qui est décrite entre le personnage Jean-Christophe Dejeu et Marie, il faut bien voir que c'est à travers le prisme ou le regard du narrateur qui finalement se complaît à dire que cette nuit d'amour est complètement ratée, puisque lui-même n'étant pas présent, ça, c'est nécessairement moins bien que quand lui est là, donc de son point de vue en tout cas. Et donc il décrit cette nuit d'amour assez catastrophique qui se termine par une crise cardiaque. C'est vraiment, normalement, c'est pas le bouquet final attendu.
C'est un loupé total, et donc il
ne dit pas ça avec beaucoup d'amertume, mais ça n'a pas l'air de l'affecter tellement, le narrateur. Et donc il y a comme ça une pour le reste c'est très difficile de commenter la façon dont je traite les scènes d'amour. Je pense que c'est des scènes difficiles à écrire, que les scènes, tout ce qui est lié justement à l'amour ou à la mort d'ailleurs, est finalement assez difficile à écrire, mais est en même temps riche d'un très grand enjeu, parce que ce sont des scènes très frappantes. Et je crois qu'une scène d'amour réussi et marque vraiment l'esprit du lecteur. Alors c'est vrai que c'est difficile. Je crois que j'essaye de le faire avec une certaine retenue, une certaine délicatesse, mais sans éviter la crudité. C'est-à-dire, je pense que je vais à l'essentiel aussi, mais c'est assez difficile pour moi de le commenter. Enfin, je suis un peu trop. Je n'ai pas ce regard trop distancé. J'essaye d'écrire les scènes, mais je n'ai pas tellement de regard extérieur.
Oui, mais ça m'intéressait de voir comment vous le commenteriez, parce que on peut être surpris à la lecture. Mais peut-être, alors, j'aimerais bien que vous lisiez, si vous acceptiez, un passage où on a à la fois le personnage de Marie et puis justement une situation un peu particulière, une situation de violence, de panique, qui est la scène de l'incendie à la fin. Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, un passage peut-être, ou avant, je ne sais pas. Peut-être le début.
Oui, peut-être Cette nuit-là m'a. Ah non, je peux pas dire comme ça.
Cette nuit-là, Marie surgit dans ma chambre vers 4 heures du matin. Elle ouvrit brutalement la porte et entra. Elle était pieds nus et en t-shirt, confuse, agitée. Elle s'avança jusqu'à mon lit et me dit qu'il y avait de la fumée dans le jardin, que le feu était aux portes de la propriété. J'enfilai un pantalon et la suivis sur la terrasse. Nous errions dans la nuit dans des tourbillons de poussière. De terribles bourrasques, qui avaient déjà renversé les chaises en métal noir de la table, s'engouffraient par intermittence dans l'allée principale. La toile des transats, maltraitée par le vent, se soulevait et s'abaissait dans des claquements de draps cinglants. Je fis le tour de la maison en courant, cherchant à déterminer d'où venait le feu, mais je ne voyais rien. La nuit était noire et venteuse, impénétrable, les arbres s'enfonçaient dans les ténèbres, et ployaient à l'unisson dans des torsions de branches et des turbulences de feuillage. La fumée commençait à devenir visible sur la terrasse, encore légère et impalpable, quelques volutes portées par le vent qui erraient en suspension dans l'air. Bon, je vais peut-être passer un petit. Vous voulez que je continue un petit peu
Oui, vous passez comme vous.
Nous ne savions pas où se trouvait le feu, s'il se rapprochait ou s'éloignait de la propriété. Nous ne savions rien. Le feu restait encore une abstraction invisible et lointaine. Ce qui fait que nous ressentîmes une véritable terreur, inimaginable, indescriptible, quand d'un coup, dans un bruit d'explosion qui résonna au loin, le feu passa la crête, dans un effet de souffle qui libéra une énorme quantité d'énergie. Et ce fut alors immédiatement, non pas les quelques flammèches que j'avais imaginées sortant d'un buisson au fond du jardin, mais une véritable ligne de feu qu'on apercevait au loin au sommet de la crête, vivante et dynamique, crénelée, qui se mit à briller dans la nuit, dans un scintillement de flammes rouges, jaunes, oranges et cuivres, bruyantes et crépitantes, que surmontaient des bouillonnements de fumée noire tourbillonnante qui montaient vers le ciel. Même si 300 mètres nous séparaient encore du brasier, nous ressentîmes immédiatement la chaleur du feu, sa lumière, sa puissance, son odeur, son grondement et sa vitesse. Les flammes commençaient déjà à descendre la colline et à fondre sur nous dans un bruit de crépitement et de sourdes respirations étouffées. Marie et moi, abandonnons alors aussitôt le tuyau d'arrosage, le laissant là, par terre, enroulé, affaissé, qui continuait à écouler son jet sur le sol de la terrasse, partîmes en courant vers la vieille camionnette break garée dans l'allée centrale. Marie, vêtue d'un simple t-shirt et de ses tongs tordus, qu'elle avait réussi à enfiler au passage, mais qui la retardait plus qu'elle ne l'aidait à courir, et moi, chaussée de vieilles espadrilles, torse nu et en pantalon de toile. Marie avait pris place au volant et fonçait droit devant elle au milieu de nuages de poussière. On apercevait la ligne fantomatique, blanche et plâtreuse, de la piste dans la lumière des phares, tandis que des massifs d'arbustes tordus et tourmentés ondulaient sur notre passage dans la nuit.
Il y a plusieurs épisodes du roman qui, comme celui-ci, sont des épisodes où tout semble brusquement s'accélérer, où il y a un péril, il y a une panique qui s'empare des personnages. Je pense en particulier dès le début du roman, donc la scène où l'amant de Marie est victime d'un infarctus et elle essaye désespérément, dans un état de peur panique évidemment, de le réanimer en lui pratiquant la respiration artificielle, etc. Il y a l'épisode central de ce cheval de course qui doit repartir vers la France et qui échappe à ses gardiens sur le tarmac de l'aéroport japonais et qui fuit dans la nuit, poursuivi par son propriétaire et puis les gens qui étaient censés s'occuper de lui. Là, il y a une scène d'une grande intensité, d'une grande violence autour du personnage que constitue ce cheval qui s'appelle Zahir, un nom que vous avez emprunté, dites-vous, à Borges. Hein. Zahir, chez Borges, dans l'Aleph, ça veut dire le visible, hein, ce qui est visible. Et puis, il y a cet épisode final de l'incendie à la fin du roman. Et ça m'amène peut-être à vous demander de commenter une déclaration que vous avez faite, je crois, au journal Le Monde, où pour expliquer un peu votre projet, vous avez dit « Je suis à la recherche d'une énergie romanesque pure ». Alors, on a justement dans ces épisodes beaucoup de dépenses énergétiques. Qu'est-ce que vous entendez par une énergie romanesque pure? Est-ce que c'est l'énergie de Marie, l'énergie du Zahir, ou bien est-ce que c'est lié à un dispositif que vous créez à l'intérieur du roman et dont vous attendez qu'il dégage justement des moments comme ça d'intensité s'opposant à des moments de lenteur et même de ralentissement volontaire de votre intrigue?
Oui, il y a deux choses. La première, vous avez tout à fait raison dans la deuxième partie de l'explication, c'est qu'il y a un travail très grand sur le rythme et pour arriver à certains moments exacerbés, à des moments dynamiques, il faut qu'il y ait des parties plus lentes. C'est-à-dire qu'on finalement, on ne peut pas toujours... on ne peut pas accélérer toujours. Enfin, on peut pas. Si on voit ça comme une ligne qui monte, il y a des sommets. Et finalement, si on reste toujours en hauteur, ça ne monte plus. Donc, c'est vrai qu'il faut redescendre pour que ça puisse remonter. Donc, ça, c'est moi, je vois ça comme une ligne quasi musicale du livre où il y a des moments. Alors, il faut redescendre sans retomber, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la tension du lecteur retombe, chute, et que... Alors par exemple, on peut séparer le livre en parties, et donc on passe à une autre partie, ce qui fait que c'est autre chose. Donc on passe à un autre lieu, et donc on passe à autre chose, et ça ne retombe pas, la tension ne retombe pas, mais on passe à autre chose, et qui permet finalement de pouvoir repartir à un niveau plus bas pour pouvoir de nouveau remonter. Donc ça, c'est toute un rythme que je travaille beaucoup. Alors en ce qui concerne l'expression énergie romanesque, en fait ce qui m'a frappé c'était le caractère quasiment visuel. En fait, quand on regarde un livre comme ça, on voit les caractères noirs immobiles sur la page, et il y a une chose qui me frappe, c'est que parfois à partir de ces caractères noirs immobiles sur la page, il y a une sorte de courant qui va aller jusque l'esprit du lecteur, et que l'esprit du lecteur va finalement dans l'esprit du lecteur, il y a des choses qui vont passer, et je trouve ça finalement très spectaculaire et très mystérieux. Comment se fait-il que parfois ces caractères sur la page restent immobiles, enfin rien ne se passe quand on les lit, et que parfois il y a justement une énergie romanesque qui passe, et que finalement il y a presque comme un courant électrique, et que le lecteur tourne les pages à toute vitesse pour voir quelle est la suite et tout ça, et que finalement c'est une des choses qui m'a beaucoup frappé, par exemple en lisant Faulkner, comment chez Faulkner il y avait certaines scènes exacerbées comme ça, où ce courant électrique était particulièrement fort, violent, et me faisait tourner les pages et aller très très vite. Et donc c'est un peu ça que j'ai recherché, c'est un peu ça qui m'a semblé finalement le plus intéressant. Je dis ça depuis 5-6 ans que j'écris, c'est presque la priorité, c'est presque ça que je recherche le plus, c'est cette énergie-là. Comment se fait-il qu'à travers ces caractères immobiles, il y a quelque chose qui fait qu'on est, complètement pris par le livre? Et donc finalement, une des choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'il valait mieux que les personnages soient en mouvement, et que cette énergie, finalement, elle fonctionnait beaucoup mieux, par exemple, dans des cas de poursuite, dans des cas dramatiques. Et c'est vrai que lorsque le personnage est statique, lorsque le personnage ne bouge pas, il y a finalement beaucoup moins d'énergie qui passe. Et donc voilà, c'est toute une réflexion que je me suis faite. C'est ça, finalement, qui m'intéresse maintenant le plus. C'est de créer des pages pleines de cette énergie et de ce courant qui est censé passer des lignes immobiles jusqu'à l'esprit du lecteur.
Et je trouve que cette poétique romanesque est particulièrement bien mise en œuvre dans ce roman. Mais on la trouvait déjà dans, je pense par exemple encore, dans l'appareil photo, où il y a presque une centaine de pages où rien ne se passe de saillant, où même on a l'impression que vous ralentissez, et vous faites même la théorie du ralentissement pour tester la réalité comme une olive, c'est l'image que vous employez, qu'on teste avec une fourchette avant de piquer dedans brutalement pour l'absorber. Eh bien, dans l'appareil photo, il y avait, au bout d'une centaine de pages, il y avait un épisode, la découverte de l'appareil photo, qui faisait que tout s'accélérait brusquement et qu'on allait aller très rapidement vers le dénouement du roman. Et ici, il y a plusieurs épisodes qui constituent une sorte de réseau, un réseau de forces qui, effectivement, confirme cette idée d'une énergétique romanesque pure, c'est-à-dire qui serait produite par des effets de rythme, des effets de langue aussi, purement romanesque.
Oui, ça ne s'appuie pas sur l'histoire. Ce n'est pas des éléments de l'histoire qui donneraient cette énergie. C'est-à-dire, c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que, par exemple, dans un roman policier, c'est l'élément de l'histoire qui fait tourner les pages et qu'on a envie de savoir ce qui se passe par rapport à l'histoire. Et en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand on enlève cet élément d'histoire, qu'est-ce qui se passe dans le rythme pur? Il peut y avoir une énergie romanesque pure. C'est en cela que j'emploie l'expression pure.
C'est tellement peu lié à l'histoire que il y a un épisode, et là on retrouve une autre constante de votre travail, c'est l'humour. Il y a un épisode vraiment rocambolesque. Donc Marie a fait venir son ex-compagnon, le narrateur, pour l'aider à trouver une solution devant le corps inanimé de son amant. Il arrive, malheureusement trop tard, on est déjà, le SAMU est déjà en train d'emporter le corps. Et il monte, il console un peu Marie qui est extrêmement nerveuse, et brusquement, elle se met à lui demander de débarrasser ses affaires, ses vêtements, et de déménager un bahut qui se trouve là, et vous voilà tous les deux en train de descendre le bahut par l'escalier.
Oui, bon, c'est une inconséquence évidemment de Marie qui à la fois l'appelle au secours. Il y a là dans cette scène-là, bon, à la fois une situation très saugrenue, mais en même temps quelque chose d'assez emblématique dans leur relation, de Marie qui à la fois l'appelle au secours et dès qu'il arrive, et il commence à l'agacer, le narrateur. Il y a quelque chose de oui, c'est ça, c'est des figures un peu oxymoriques, c'est-à-dire qu'à la fois elle a envie qu'il vienne et puis elle ne le supporte pas, et même plus largement dans leur relation c'est tout le temps une impossibilité, enfin une double impossibilité, une impossibilité d'être ensemble et impossibilité de ne pas être ensemble.
Pourtant, alors, je ne sais pas si on peut le dire, mais à la fin, il y a une sorte de renversement, et puis le roman se termine, comme d'autres romans de vous d'ailleurs, par un début.
Oui, mais qui est le même début que le début de Faire l'amour, trois livres plus tôt, mais on en arrive quelque chose assez comme une sorte de dialectique entre, finalement, dans mon premier livre, dans la salle de bain, je m'interrogeais sur la façon dont on percevait le temps qui passe. Et donc, il y avait une sorte de, je voyais une sorte de dialectique entre l'immobilité et le mouvement. C'est-à-dire qu'on avait à la fois le sentiment que le temps était immobile. Enfin, le passage du temps, on ne le voyait pas passer, quoi. Il avait l'air immobile. On ne pouvait pas le suivre des yeux et le voir passer. Il ne passait pas. Et en même temps, il y avait l'autre versant de la dialectique, c'est qu'on se rendait compte en tant qu'il avait passé. Et donc, il y avait cette dialectique immobilité-mouvement. Et finalement, l'histoire d'amour entre Marie et le narrateur, elle est aussi dialectique de cette façon-là, c'est-à-dire qu'à la fois, ils sont séparés, mais ils font de très nombreuses fois l'amour pour la dernière fois ensemble. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils sont... Et entre la première scène de Faire l'amour, qui est une scène d'amour physique, et la dernière scène de La vérité sur Marie, qui est une scène d'amour physique aussi, et pourtant, ils se séparent. Et donc, ils sont... Il y a donc une sorte de, encore une fois, une figure totalement oxymorique, parce que normalement, quand on se sépare, on ne fait pas l'amour.
D'accord. Voilà, donc je pense que on a saisi à quel point ce roman est à la fois original et en même temps, c'est sur le plan de l'invention romanesque, je dirais, peut-être un de vos romans les plus construits, les plus élaborés. Je ne sais pas si vous avez le sentiment d'avoir travaillé plus. Est-ce qu'il y a un plus ou un moins? On doit toujours avoir le sentiment qu'on a travaillé beaucoup pour un roman. Mais celui-ci donne une impression d'élaboration. Par exemple, ne serait-ce que du point de vue de la documentation, sur le traitement l'entretien des chevaux, le transport des chevaux en avion, vous avez dû pas mal travailler.
Oui, mais je pense que Fuir aussi avait tout le regard sur la Chine contemporaine qu'il y a dans, ouais, Fuir, la grande scène de poursuite en moto, à trois sur la moto, et cette grande scène de poursuite à trois sur la moto trouve un peu son équivalent dans La vérité sur Marie, avec la grande scène du cheval du pur sang dans la soute du Boeing 747. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une équivalence, et certes, il y a une richesse... Mais bon, oui, non, je commenterai pas ça, si c'est plus riche ou pas plus riche.
Ouais.